La catéchèse
du père directeur.
Bien voilà, nous donnons le temps pour cette catéchèse. Merci d'être là. Bienvenue à tout le monde. Père Roger, bonjour.
Et bonjour Bob, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Isaïe, prophète de l'espérance.
Prophète de l'espérance, Isaïe. Nous cheminons avec lui chaque année, spécialement durant l'Avent. Mais qui est-il, ce prophète? Il faudrait... qu'on essaye, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, de présenter tant soit peu le profil, si vous voulez, le ministère de ces grands prophètes. Hein. Un prophète très 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 expérimenté sur le plan religieux, pastoral et même sur le plan diplomatique. Nous allons parler de cette grande figure de l'Ancien Testament, le prophète Isaïe.
Place à l'Esprit Saint avec Nicolas Monaconda. Nous ouvrons les robinets des enseignements. Participez à cette émission au 081 99 66 098. Au moment favorable, nous allons vous accorder la parole. Isaïe, prophète de l'espérance. Père Roger, vous avez encore la parole.
Et merci beaucoup, Bob. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence mariale, fréquence ecclésiale, fréquence doctrinale, fréquence bleue, fréquence de proximité. Isaïe, le prophète de l'espérance. L'Avent, c'est le temps de l'espérance. Et l'Église a choisi le prophète Isaïe pour nous accompagner, tout comme Jean-Baptiste aussi, sont des grands témoins durant ces temps forts de l'Avent. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt de Isaïe. Jean-Baptiste, nous avons parlé de lui il y a quelques mois, quand on a célébré les martyrs de Jean-Baptiste. Le 29 août, nous avions parlé de lui. Et aujourd'hui, parlons du prophète Isaïe. Yeshayahu, c'est ça son nom. Ça signifie Yahvé sauve, Adonai sauve. Donc c'est une variante du nom Yehoshua. On sait que notre Messie s'appellera Yehoshua, en abrégé Yoshua, ce qui signifie aussi Dieu sauve. Isaïe, c'est un personnage ancien, dont son nom, c'est bien sûr en hébreu, mais c'est un hébreu plus ancien, c'est le proto-hébreu, Yeshayahu. Hey, Dieu Yahvé sauve, ou Dieu sauve, c'est ça son nom. Il a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ, précisément de 740 jusqu'à 700 avant Jésus-Christ. Plus ou moins 40 ans de ministère prophétique, ce qui lui permettra de travailler à l'époque d'au moins 4 rois. Ozias est mort l'année où Isaïe commençait son ministère à part Ozias et à Jotham, hein, qui était roi de 742 à 735. Isaïe l'a connu, il a aussi connu Akaz. Avec Akaz, il y a eu une relation un peu tumultueuse, hein, entre Isaïe et Akaz, qui a régné de 735 à 715 avant Jésus-Christ, bien sûr. Akaz, c'est le roi infidèle, hein, et Isaïe lui dira de demander un signe à Dieu. Le roi fatigué parce qu'il a sacrifié le prince héritier, il dit, je ne demande pas de signe. Isaïe lui dit, voilà, la Vierge est enceinte, il va enfanter. Isaïe 7. Et il a connu aussi Ézéchias, un roi fidèle, mais qui n'avait pas assez d'autorité. Hein. Il n'était pas autoritaire. Et un roi qui a quand même mené des réformes, hein, mais il a connu des problèmes avec des Assyriens. Et c'est Isaïe qui l'a sauvé de justesse, comme c'est... Ça apparaît dans Isaïe 37, hein, surtout au 33e verset. Ézéchias a régné de 715 jusqu'à 687 avant Jésus-Christ. Voilà, ça c'est un peu le tableau des rois, hein, qui ont connu Isaïe, qu'Isaïe aussi a connu en son temps. Il est fils d'Amoz. Il parle de son papa au premier verset du premier chapitre de son livre, hein. Il se présente comme fils d'Amoth. Bon, on pense que Amoth est un grand monsieur qui vient de la noblesse, hein, noblesse sociale. Et donc, ce qui fait qu'on croit que Isaïe était de l'aristocratie et de l'époque, ce qui lui facilitait l'accès à la cour royale. Parce qu'il était très proche du roi, il ne mâchait pas de mots quand le roi se méconduisait. Il avait la liberté de dire ce qu'il voulait dire au roi, mais il l'aidait aussi par des conseils. Par des conseils, comme je vous ai dit, hein, je l'ai dit de temps en temps, que Ézéchias a été sauvé par Isaïe. Parce que lors du siège de Jérusalem par les Assyriens, Ézéchias avait vu la fin de son règne. Mais Isaïe lui a dit, écoutez, ne vous en faites pas. Si vous lisez Isaïe 37, hein, ça apparaît, ils n'entreront pas dans la ville, ils ne vont même pas tuer quelqu'un. Et puis après, il y a eu, bon, tout ce qu'on raconte après, que voilà, il y a des anges qui ont frappé l'armée de Sennacherib. Il a rebroussé chemin, et puis c'était sa chute, quelques temps après. Donc voilà, ça c'est Isaïe et Ézéchias. Il a eu des relations très faciles avec le roi, des relations qui pouvaient être tumultueuses lorsque le roi se méconduisait, mais aussi des relations constructives. Lorsque le roi estimait que bon, ce que dit le prophète mérite attention et qu'il faut appliquer cela. Il va mourir autour de l'an 700, coupé en deux, on l'a scié en deux morceaux. On parle de Manassé qui serait à la base de la mort ou du martyr du prophète Isaïe. Il avait une femme, est-ce que c'est symbolique, on ne sait pas. Sa femme s'appelle la prophétesse. La prophétesse, on l'appelle la prophétesse, c'est comme si... Cette femme-là symbolise tout simplement la vocation d'Isaïe, c'est-à-dire son métier, si vous voulez, son travail pastoral. Il était prophète et sa femme s'appelle la prophétesse. Donc, comme qui dirait, il a épousé son travail. C'est comme cela, il a épousé son travail. Il a épousé son ministère, si vous voulez. Et voilà pourquoi cette femme s'appelle la prophétesse. C'est probablement, comme je dis, une figure tout simplement symbolique. Mais il y avait aussi des enfants dont les noms sont aussi symboliques. Probablement, il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant, c'est fort probable, et que la prophétesse qu'on présente comme femme d'Isaïe, c'est un nom symbolique pour montrer la relation qu'il y a entre Isaïe et son propre ministère prophétique. C'est possible. Donc les avis sont partagés. Il y en a qui pensent que c'est une femme réelle, il y a d'autres qui pensent que c'est symbolique. De même aussi ses enfants. Il a eu deux fils. Mais les noms de ses enfants sont plutôt les thèmes qu'il a développés dans son ministère prophétique. L'un des fils s'appelle Shear Yashuv, qui signifie « il y a un petit reste qui va revenir ». Et ça apparaît dans la prédication d'Isaïe. On l'appelle prophète de l'espérance aussi parce qu'il dit que malgré le jugement de Dieu, qui est un jugement purificateur, il y a un reste qui sera sauvé. Donc ça, c'est déjà l'espérance. Ce n'est pas tout le monde qui va périr lors du jugement. Il y a des survivants. Il y en a qui vont survivre au jugement de Dieu. Alors voilà, l'un de ses fils, Shear Yashuv, dont un reste reviendra, qui traduit un peu l'espérance prophétique que Isaïe enseigne ou transmet à la société. L'autre fils, le nom est un peu très long, Maher Shalal Hashbaz, ça signifie celui qui peut facilement piller. Donc cet enfant annonce déjà par son nom les événements malheureux qui viendront plus tard, notamment après Isaïe, en Juda, c'est-à-dire Juda sera détruit, sera pillé par ses ennemis. Et voilà pourquoi l'un des fils d'Isaïe s'appelle Maher Shalal Hashbaz. Alors, lui, c'est vraiment le côté négatif, c'est-à-dire c'est un nom qui annonce des événements malheureux qui arrivera dans la société. Mais l'autre nom, Shear Yashuv, ça c'est positif, ça annonce l'espérance qu'Isaïe va transmettre à la société. Malgré tout, il y en a qui vont survivre à la catastrophe et le peuple juif continuera, le peuple lui ne va pas disparaître totalement. Il a travaillé dans un contexte historique assez mouvementé. D'abord, il commence sa vocation, il reçoit l'appel « La mort, l'année de la mort du roi Ozias », selon Isaïe 6. Il dit clairement qu'il a vu, il a eu une vision au temple, l'année de la mort d'Ozias. Or, Ozias est mort en 740. Donc, Ozias, c'est le symbole même de la stabilité. Parce que le sud résistait à cause des rois qui étaient autoritaires, mais qui étaient très pieux, comme Ozias. C'est ainsi que le sud a résisté. Le nord a été détruit par les Assyriens depuis pratiquement 18 ans. Parce que Sargon II envahit la Samarie en 722 avant Jésus-Christ. Donc 18 ans avant la destruction de la Samarie, Ozias meurt. Donc l'instabilité commence aussi au sud. Alors que Ozias va mourir, ce roi qui incarnait la stabilité du royaume du sud, c'est, comme disent certains, c'est la fin de la stabilité au royaume du sud, avec la mort d'Ozias. L'instabilité commence, mais Dieu envoie un prophète. Parce que ce sera un moment difficile pour le peuple juif, hein, ceux du sud. Alors voilà pourquoi le prophète Isaïe apparaît. Il surgit la mort, l'année de la mort d'Ozias, parce que Ozias incarnait la stabilité du royaume. Ozias partit, le royaume entre dans un tunnel de turbulence, un tunnel sombre, et le prophète Isaïe reçoit une mission particulière dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce la fidélité, hein, la fidélité à Dieu. Il dénonce les alliances. Les prophètes étaient toujours contre les alliances politiques, notamment les alliances de Akaz, Akaz qui fait l'alliance avec la Syrie. Et Isaïe était contre parce que justement, quand il y a des alliances politiques, eh bien le peuple avec lequel on va faire l'alliance peut introduire en Israël ou dans le royaume de Juda des pratiques idolâtres. Parce que quand il y a alliance entre le peuple avec lequel vous avez noué l'alliance va envoyer des reines dans la cour. Dans la cour en Judée ou bien en Israël. Et ces reines apportent souvent des pratiques idolâtres de leur pays d'origine. Voilà pourquoi les prophètes s'opposent à tout ce qui est alliance politique et insistent sur l'alliance avec le Seigneur, avec Dieu. Alors, comme je disais, c'est le prophète de l'espérance parce que, à la différence de Jérémie, Isaïe n'est pas un prophète qui se plaint beaucoup. Jérémie se plaint. Il se plaint, bon, il a raison de se plaindre parce que son époque, c'est aussi l'époque de la catastrophe. Il se plaint, voilà pourquoi il y a même le mot français « jérémiade ». C'est-à-dire lorsque quelqu'un est très plaintif, on dit « c'est jérémiade », c'est-à-dire il se plaint trop. Alors, Jérémie a un peu ce ton-là, un ton très plaintif sur ce qui ne va pas, tout en annonçant aussi, bien sûr, des oracles, des consolations. Ça existe aussi chez Jérémie. Alors, Isaïe paraît, en tout cas, moins plaintif. Ce n'est pas un prophète qui se plaint, même si les choses vont très mal. Il regarde plutôt ce qui est positif et préfère annoncer plutôt un monde meilleur. Alors, il annonce l'espérance à travers la vision d'un monde meilleur. Même quand ça va très mal, il dit non, ça ira. Il présente le portrait de l'avenir, on l'a entendu, hein, la première lecture du dimanche passé, troisième dimanche de l'Avent, comment il dit que même le désert va fleurir. Hein, le désert va fleurir, là où il n'y a pas d'eau, il y aura beaucoup d'eau. Donc, il a toujours une vision assez optimiste sur l'avenir de la société. Mais il y a une chose qu'il rappelle aussi, il dit « Dieu va juger ». Le jugement divin est présenté avec une connotation typique d'Isaïe, hein, comme il est prophète de l'espérance. Donc Dieu va juger le monde pour purifier le monde de ce qui détruit son peuple, c'est-à-dire l'injustice, l'idolâtrie, la corruption. C'est ça le jugement purificateur. Et donc le jugement devient aussi un moment d'espérance, parce que le jugement divin, c'est pour purifier le monde des antivaleurs qui empêchent le peuple de Dieu de s'épanouir. Alors, il annonce un reste. Même s'il y aura le jugement, il y a un reste. Le reste qui correspond au nom de son fils, hein, Shear Yashuv, hein, un reste reviendra, ou bien il y aura un peuple qui va survivre. Donc, voilà, l'espérance, c'est aussi parce que même si on tuait les gens, Isaïe dit, eh bien, on ne va pas tout éliminer. On ne va pas éliminer tout le peuple. Il y aura toujours un reste qui va survivre. Et ce reste-là verra le bonheur. Alors, et Isaïe annonce parfois l'espérance contre toute espérance. C'est le cas de le serviteur souffrant, dont il est question dans Isaïe 52, des 13 jusqu'au 53e verset, 53e chapitre, 12e verset. Donc, Isaïe 52, 13. Jusqu'à 53, 12, des serviteurs souffrant. Ça, c'est vraiment l'espérance contre toute espérance. Donc, une figure de quelqu'un qui souffre. Ça peut être un personnage corporatif, c'est-à-dire qui représente un peuple. Pour nous, c'est Jésus, hein, le Messie. Il souffre terriblement, mais Isaïe dit, « Mon serviteur réussira. Il sera exalté. La multitude sera surprise en voyant comment cet homme qui souffre sera transformé, sera transfiguré. » Donc c'est ça, espérer contre toute espérance. Donc même quand on voit que bien, c'est fini, la société ne va plus aller de l'avant, la vie de quelqu'un vraiment foutue, mais Isaïe, à travers le serviteur souffrant, dit « Écoutez, mon serviteur réussira. » Même si la multitude pense que c'est fini pour lui, et il est déformé, il n'a plus le visage d'un homme, mais il réussira. Donc ça, c'est l'espérance prophétique, hein, qu'on peut résumer par « espérer contre toute espérance » chez le prophète Isaïe. Alors, le fondement de l'espérance, c'est quoi? C'est le Messie. Il y a espérance parce que le Messie va venir. Il annonce le Messie et il appelle avec des titres qui traduisent un peu l'espérance messianique. Donc, quand le Messie va naître, les choses vont changer. Il appelle Emmanuel, c'est-à-dire « Im Hanouel », c'est-à-dire avec nos dieux, parce que le Messie va vivre au milieu des gens. Et Saint Jean, on va l'entendre le matin de Noël, hein, le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, parce qu'il est Emmanuel. Il a planté sa tente parmi nous. Quand nous disons « il habita parmi nous », en fait, le sens, c'est « il a déployé sa tente parmi nous », c'est-à-dire il a construit sa maison parmi nous, parce qu'il est « Im Hanouel », c'est-à-dire avec nos dieux, Dieu avec nous. Donc ça, c'est déjà un Messie qui porte l'espérance parce qu'il vient habiter avec nous. Il vient partager notre sort quotidien. Il vient partager nos difficultés. Il vient marcher avec nous. Il vient nous regaillardir dans nos combats quotidiens. Mais il appelle aussi ce Messie Prince de la paix. Prince de la paix, ça aussi, ça traduit l'espérance parce que le Messie est considéré comme celui qui apportera la paix. La paix chez les Juifs, ce n'est pas seulement la fin de la guerre, non. La paix, c'est plus que la fin de la guerre. La paix, c'est l'ensemble des biens messianiques. Et les biens que le Messie apporte, c'est bien sûr la paix, la tranquillité, absence de la guerre, mais aussi le bien-être. Le bien-être intégral, c'est ça en fait la paix. L'ensemble des biens que le Messie apporte, et donc la paix signifie en fait le bien-être intégral du peuple de Dieu. Et il appelle aussi Ramon de Jessé, c'est-à-dire le Messie vient contre toute attente, parce que l'arbre est abattu. L'arbre est abattu. Et bon, quand vous regardez, vous dites, bon, il n'y a plus d'arbre et donc c'est fini. Mais il y a la racine en bas. Alors, le Messie, c'est rameau de Jessé, c'est-à-dire une sorte de rejeton qui pousse là où l'arbre était abattu. Et les gens étaient convaincus que cet arbre ne va plus repousser. Mais comme il y avait les racines contre toute attente, eh bien, l'arbre repousse. Ça, c'est l'expression qu'il utilise aussi. Rameau de Jessé, rejeton de David, serviteur souffrant. Donc voilà, en résumé, l'espérance messianique que le prophète Isaïe nous propose durant ce temps de l'Avent. Merci.
Merci beaucoup, Père Roger. Ensemble, faisons de cette catéchèse un vrai dialogue en participant au 081-99-66-098. Nous allons retourner de l'autre côté de la technique pour retrouver Nicolas Mwanakunda. Je rappelle, 081-99-66-098. C'est le numéro pour participer à cette catéchèse. Nous allons vous lire WhatsApp, c'est possible.
Témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin.
Participons maintenant à cette catéchèse. Isaïe, prophète de l'espérance, 081-99-66-098. La toute première question, c'est de notre frère Arsène Ika. Il y a un questionnaire. Merci Père pour cette catéchèse. Des explications Père sur la chronologie historique du livre d'Isaïe, car le livre parle d'avant, pendant et après la déportation. Triple Isaïe, ce qui est relativement long quand même. Deuxième question, mon père, que dire des calamités annoncées par Isaïe, lui qui est prophète de l'espérance, et son message sur la rédemption d'Israël est-il mal compris aujourd'hui? Je cite le premier ministre Netanyahou qui avait dit ouvertement, nous sommes les fils de la lumière et nous accomplirons la prophétie d'Isaïe. Ceci pour justifier la guerre à Gaza et au Liban. Arsène Ika.
Ok. Merci beaucoup à notre frère pour les deux questions qu'il vient de nous poser. Nous n'avons pas dit cela. Évidemment, les livres d'Isaïe, trois parties. Hein. C'est comme cela qu'on les dit. Hein. Donc, ça fait presque l'unanimité, même si les trois parties ne sont pas strictement à séparer de façon stricte. Parce que il y a parfois, dans la première partie du livre, hein, des textes probablement qu'on peut situer à l'époque de la déportation. Mais d'une façon générale, dans une catéchèse publique comme celle-ci, on peut retenir ce qu'on a toujours dit. Il y a trois Isaïe, trois parties dans les livres d'Isaïe. Isaïe, le proto-Isaïe, c'est Isaïe 1 jusqu'à 39. C'est avant l'exil à Babylone, on appelle ça Isaïe de Jérusalem. On considère que cette première partie du livre d'Isaïe remonte à Isaïe historique, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a aussi la deuxième partie, du 40e chapitre jusqu'au 55e. On l'appelle Deutéro-Isaïe. C'est durant l'exil à Babylone. Hein. C'est là qu'il y a beaucoup d'oracles de consolation, notamment Isaïe 40. Hein. Consoler, consoler mon peuple. Alors après, il y a Trito-Isaïe ou troisième Isaïe. Ça, c'est après la déportation en Israël, dont nous sommes pratiquement à la fin du 6e siècle. Si le Deutéro Isaïe est situé au début du 6e siècle, eh bien, la troisième partie de Trito Isaïe, c'est plus ou moins à la fin du 6e siècle de notre ère. Et là, on aborde des problèmes liés au retour à la Terre Sainte. Et puis, l'effort qu'il faut fournir pour le vivre ensemble des Juifs après l'exil, mais aussi pour la reconstruction des infrastructures, même si ce n'est pas abordé clairement dans les livres d'Isaïe, parce que ça, c'est surtout des prophètes comme Zacharie, Abdias qui vont parler de la reconstruction matérielle de la ville de Jérusalem et du Temple. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à la prophétie d'Isaïe. Bon, vous savez, comme je dis souvent, la théologie politique qui sous-tend la guerre que mène Israël en Palestine, bon, c'est une théologie qui est aussi un peu idéologique, si je peux dire ainsi. Parce qu'on prend d'abord le texte littéralement, et puis après, bon, on applique cela dans un contexte où on veut justifier la guerre. Mais ce qui n'est pas toujours évident, parce que même dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y a des textes qui présentent Dieu comme un Dieu qui soutient la guerre. Il est du côté de son peuple pour faire la guerre, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu universel aussi. Voilà pourquoi il a envoyé Jonas, le prophète Jonas, à Ninive, chez les païens. Donc ça, je crois que nos frères juifs d'aujourd'hui devraient le savoir, les Israéliens devraient le savoir, que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu qui est dans un camp, dans les camps d'un peuple contre l'autre peuple. C'est un Dieu universel. Et ça apparaît déjà dans l'Ancien Testament, cette universalité du salut. Jonas qui va chez les Ninivites. Et donc, on ne peut pas perdre de vue le fait que le Dieu d'Israël est le Dieu universel. Il est universel. Et si on tient compte de cela, je crois qu'on devrait mettre un peu d'eau dans le vin, parce qu'on ne peut pas faire la guerre pour détruire un peuple au nom des livres de la Bible, au nom du texte biblique, alors que ce Dieu est présenté justement dans la Bible comme le Dieu de tout le monde, pas seulement des Juifs, mais le Dieu qui a créé tous les êtres humains. Il a créé chaque être humain à son image.
Nous poursuivons avec les questions. Bonjour mon père. Ma question est celle-ci. En parlant d'Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11, pouvez-vous nous expliquer ces versets bibliques? Merci et bonne journée à vous, mon père. Mes salutations à tous les bannés, maman.
Isaïe 55.
55, 10 à 11.
Isaïe. Ok, il faut d'abord qu'on retrouve ça. Si on écrit en même temps, on envoie aussi des textes, c'est toujours mieux pour gagner du temps, mais on va retrouver cela. Bon, d'abord, le contexte, c'est le contexte de Crito-Isaïe, 3e Isaïe, dont nous sommes à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retourneront pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondé, fait germer, pour donner la sémence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans résultat, sans avoir accompli ce que je veux et réalisé l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. En fait, bon, c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire que le prophète veut rappeler au peuple que sa parole n'est pas stérile. Ce qu'il dit, il le fait. Donc ce que Dieu dit, il le réalise. C'est un peu ce qui apparaît déjà au premier chapitre de la Genèse. Que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait des luminaires dans le ciel, les luminaires furent. Donc ce qu'il dit, se réalise. Donc les caractères performants de la parole de Dieu. C'est une parole performante qui se réalise.
Nous prenons cette réaction. Bonjour ma radio, bonjour Père, bonjour Bob. Merci beaucoup pour cette très belle catéchèse, Père. En tout cas, vraiment, je remercie les seigneurs, car à travers différentes catéchèses, ça m'a vraiment beaucoup aidé du point de vue spirituel. La question est celle de savoir comment nous pouvons avoir l'espérance dans notre vie si notre situation de la vie ne marche pas bien. On doit toujours attendre ou comment? C'est le frère Samson Nongue depuis la paroisse Saint-Pie-X, Kinshasa Ngiringiri.
Et quand ça ne va pas, c'est justement le moment d'avoir l'espérance. Hein, donc c'est ça le travail d'Isaïe. Merci à notre frère depuis Saint-Pie-X. Hein. Donc Isaïe, elle se bat. Il annonce la parole de Dieu à un peuple qui est meurtri, un peuple qui a peur. Il y a déjà des problèmes, il y avait des problèmes d'injustice sociale déjà, une minorité qui opprime la majorité, des problèmes d'idolâtrie, il y a des problèmes de violence déjà dans la société. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il annonce l'espérance. Et l'espérance qu'il annonce, d'abord, présente un monde meilleur. C'est-à-dire, les choses vont changer positivement. Il présente un monde meilleur, une vision de la société qui dépeint un monde vraiment meilleur, où on va bien vivre. Et de deux, il dit, pour que ce monde meilleur advienne, Dieu va purifier le monde de l'injustice, des antivaleurs. Et les restes, c'est-à-dire ceux qui resteront fidèles à Dieu, ils vont en tirer profit. Donc c'est ça en fait l'espérance. On ne peut pas, comme chrétien, dans la souffrance, regarder seulement la souffrance et puis renoncer à l'espérance. Les chrétiens, c'est celui qui peut lever les yeux vers le ciel et vivre la spiritualité de l'avant qui a comme fondement, entre autres, ces versets bibliques, « Le Seigneur vient nous sauver. Notre salut est proche. » C'est partant d'une telle spiritualité, spiritualité de l'avant, spiritualité de l'espérance, qui s'effondre sur ceci, « Le Seigneur est en route, il vient nous sauver. Le salut est proche. » C'est partant de cela qu'on peut justement vivre dans l'espérance.
Isaïe, prophète de l'espérance, c'est le thème de cette catéchèse. Un auditeur en ligne. Allô, bonjour.
Allô.
Allô, bonjour, vous êtes en direct.
Bonjour mon père, bonjour.
Bonjour mon frère.
Merci beaucoup pour cette belle catéchèse, mon père. C'est Christ de la paroisse Saint-Raphaël. Je n'ai qu'une seule question. En lisant dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le premier chapitre, où on a listé la descendance du Christ, il y a une dame, Rahab, qui était en union avec Salomon. En lisant sur la vue sur Rahab, Rahab, c'était une prostituée. Ce que ma question, parce que je n'ai pas lu tous les textes du prophète Isaïe, c'est que Isaïe, en prophétisant la venue du Christ, s'agit-il que dans la lignée du Messie ou dans sa descendance, il y avait une prostituée? Merci beaucoup, mon père, pour cette catéchèse. Merci beaucoup. Pour l'instant, je m'arrête.
C'est une question qui porte sur la généalogie de Jésus selon Matthieu 1. C'est le texte que nous lisons le 8 septembre et même durant l'Avent, nous aurons à lire cela avant le 25 décembre. Donc, les origines de Jésus. Alors, d'abord, il faut dire que, bon, à un certain moment, l'exégèse était dominée par les hommes que nous sommes, et nous ne voyons que certaines femmes aux mœurs légères qui figurent dans la généalogie de Jésus chez Matthieu. Vous avez Tamar, n'est-ce pas, constituée, qui s'est déguisée en prostituée. Vous avez Rahab, prostituée de Jéricho. Vous avez Ruth, Moabite, hein? Bon, elle n'était pas de mœurs légères, mais c'est une païenne. Vous avez la femme d'Uri, le Hittite, qui est une femme adultère. Alors, maintenant, partant de ça, donc comme ce sont des hommes, c'est nous qui étions exégètes, il n'y avait pas encore des théologiennes, alors on faisait souvent ce genre de réflexion que voilà, dans la généalogie de Jésus, il y a des femmes aux mœurs légères, mais il y a aussi des hommes aux mœurs légères. Il n'y a pas que les femmes. Donc c'est une généalogie vraiment d'une famille humaine. Voilà pourquoi de Abraham jusqu'à Jésus, eh bien, la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, de par son père adoptif Joseph, est une généalogie qui est pleine des hommes et des femmes aux mœurs légères. Pas seulement des femmes, mais aussi des hommes. Pourquoi? Parce que, bon, il est né dans une famille humaine. Où est cette famille humaine où il n'y a que des saints? Même des familles qui ont produit des grands saints ont aussi des fils égarés, des filles égarées, il y en a. Ou des brebis qui ont des galles, donc il y en a. Partout où il y a des saints, il y a aussi des pécheurs. Et voilà pourquoi la généalogie qui décrit un peu l'origine de Jésus par son père adoptif Joseph est une généalogie qui ressemble à celle de nos familles. Comme dans nos familles, il y a des saints, mais il y a aussi des criminels peut-être, des gens qui ont scandalisé par leur comportement.
Nous poursuivons. Bonjour Radio Maria. Mes questions, quelle différence établissez-vous entre les prophètes Isaïe et Jean-Baptiste? Deuxième question, quelle attitude pouvons-nous avoir auprès des gens qui nous font du mal, mais qu'on a déjà pardonné? Troisième question, si Jésus n'est pas revenu, notre foi est vaine. Cela veut dire quoi? Les questions de Benjamin, lecteur à la paroisse Saint-Barthélemy, ici à Kinshasa.
Merci à notre frère Benjamin.
Depuis la paroisse Saint-Barthélemy.
Ok, Saint-Barthélemy, mais il s'appelle Benjamin.
Benjamin.
Isaïe et Jean-Baptiste ont ceci de commun, c'est l'appel à la conversion. et Jean-Baptiste utilise un passage d'Isaïe. Donc, redresser le chemin, rendre droit le chemin, et il faut abattre les collines, il faut remplir les ravins, ça vient d'Isaïe. Et donc Jean-Baptiste s'appuie sur Isaïe pour annoncer la conversion aux gens de son époque. Donc les deux sont des prophètes qui insistent sur la conversion, et Jean-Baptiste emprunte la formule utilisée par Isaïe ou les paroles utilisées par Isaïe. Des gens que vous avez pardonnés, mais qui continuent à vous faire du mal, vont. Le pardon est sans limite. C'est ça ce que Jésus a dit. Chez les rabbins, on pouvait pardonner jusqu'à 7 fois à l'époque de Jésus. Voilà pourquoi Pierre pose la question à Jésus, combien de fois nous devons pardonner? Jusqu'à 7 fois. Entre parenthèses, comme c'est dit dans certaines écoles rabbiniques, il faut pardonner jusqu'à 7 fois. Et chaque fois que vous pardonnez, il faut chercher des témoins. Il faut chercher des témoins. Je te pardonne en présence de tels témoins. Et puis après, lorsque vous atteignez le chiffre 7, en ce moment-là, le pardon n'est plus possible. Bon, du moins d'après certaines sources. Alors Jésus a dit, contre cette jurisprudence de la Mishnah des Juifs à l'époque, Jésus dit, il faut pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire que le pardon est illimité. C'est comme Jésus sur la croix, n'est-ce pas? En Luc 23 et 34, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on dit ça à l'imparfait. Jésus disait, on ne dit pas que Jésus dit, mais il disait. C'est-à-dire, il répétait, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, chaque fois qu'ils offensaient Jésus, Jésus disait, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et être chrétien, c'est imiter Jésus. Alors, la meilleure formulation, ce n'est pas si Jésus ne revient pas, notre foi est vaine, mais si Jésus n'est pas ressuscité. Ça apparaît dans 1 Corinthiens 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et c'est vrai. C'est vrai parce que le salut commence à Noël et trouve son accomplissement à Pâques, avec la résurrection du Seigneur. Si il n'est pas ressuscité, à quoi nous devons croire? Nous allons croire que Jésus est né. Et puis c'est tout. C'est-à-dire c'est un salut inachevé. Ce sera le salut inachevé si on croit que Jésus est né et après on ne sait pas quel a été son sort. Il n'est pas ressuscité. Alors là, c'est le salut inachevé. Alors le salut commencé à Noël s'achève ou s'accomplit à Pâques avec la proclamation de la résurrection du Seigneur.
Écoutons Joseph Desmarie.
Bonjour Bob, bonjour mon père et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Y a-t-il une nuance entre Isaïe et Ésaïe? Parce que dans d'autres versions bibliques, nous voyons c'est écrit Ésaïe au lieu d'Isaïe. Or, en droit, on dit que lorsqu'on change de nom, ce n'est plus vous. Alors, vous nous dites, vous nous parlez d'Isaïe. Est-ce que c'est ce même prophète ou le prophète c'est vraiment Ésaïe? Qui est le prophète entre Isaïe et Ésaïe? Parce qu'en droit, le nom, lorsqu'on le change, ce n'est plus la même personne. Ma première petite question, est-ce que le livre d'Isaïe, mon père, est l'œuvre d'un seul prophète qui s'appelle Isaïe ou Ésaïe? Ou c'est tout simplement une compilation des textes provenant de différentes époques, à savoir, comme ce que vous avez énuméré, le proto-Isaïe, le deutéro-Isaïe et enfin le trito-Isaïe? Ma deuxième question, je n'arrive toujours pas à comprendre, mon père. Lorsque Isaïe prononce le vocable Emmanuel comme signe pour le roi Akaz à cette époque-là, et Akaz est mort, décédé sans avoir vu ce Emmanuel-là, jusqu'à sa mort, il n'a pas palpé ce signe-là. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une prophétie messianique immédiate ou plutôt des textes postérieurs? Ou aussi, pourquoi pas, des oracles, des jugements et des saluts qui se superposent comme ça. Bref, quel est le sens premier de ce signe qu'Emmanuel pour le roi Akaz? Et c'est une prophétie immédiate, c'est-à-dire la naissance d'un enfant à cette époque-là, ou plutôt une prophétie messianique future? Et pour finir, mon père, Je prends le vocable Emmanuel. Dieu est avec nous. Qu'évoque Esaïe. Et c'est un nom propre ou une description. Et c'est un signe de salut ou plutôt un jugement à venir chez Esaïe ou Isaïe. Merci mon père.
Merci beaucoup à Joseph de Marie pour sa question qu'il vient de nous poser. D'abord, Esaïe et Isaïe. Bon, en grec, c'est clair, hein, ça doit être Esaïas en grec. Esaïas, parce qu'il y a epsilon, donc Esaïas. Mais quand on dit Isaïe, eh bien, ça vient plutôt de la Vulgate. C'est la traduction Vulgate. Et vous savez que la langue française est une langue d'origine latine. Et c'est normal qu'en français, on ait la version Isaïe, parce que c'est un calque linguistique de Yeshaya, plutôt en hébreu, disons en proto-hébreu, donc Yeshayahu, Yeshayahu, et donc ça devrait être, en fait, si vous calquez ça de l'hébreu, ça devrait donner Esaïa, comme c'est d'ailleurs en grec, Esaïas. Alors maintenant, le français est une langue d'origine latine. Voilà pourquoi on a calqué ça du latin. Parce que dans la Vulgate, il y a déjà Isaïe. Isaïe apparaît dans la Vulgate de Saint Jérôme. Et le français étant une langue d'origine latine, bon, ils ont calqué sur la Vulgate. De là, nous avons Isaïe. Mais la forme grecque, ce sera Esaïas. Et ça peut donner aussi Esaïe. Mais c'est le même personnage. Et pourquoi le même personnage? Parce que, bon, le nom a été traduit par ce qu'on appelle les calques linguistiques. C'est-à-dire, on n'a pas tellement déformé, mais on a essayé de traduire le mot en respectant sa forme d'origine, tout en l'adaptant un peu aux exigences de la langue cible, c'est-à-dire la langue dans laquelle on traduit. Et les livres d'Isaïe, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est comme le Pentateuque, ce n'est pas l'œuvre de Moïse, ça c'est l'œuvre de plusieurs traditions, plusieurs écoles théologiques. Et les livres d'Isaïe aussi, se situe à trois périodes différentes. La première période, c'est avant l'exil. Hein? Alors là, on dit que c'est probablement lié à Isaïe historique. Et puis pendant l'exil, ce sont des disciples d'Isaïe, parce qu'Isaïe est mort autour de l'an 700. Et donc, il n'a pas connu l'exil à Babylone. L'exil est venu plus ou moins un siècle après la mort du prophète Isaïe. Alors pendant l'exil, ses disciples ont composé des textes. Tenant compte de la spiritualité, la théologie d'Isaïe, ils ont composé des textes qu'on retrouve à partir du 40e chapitre du livre d'Isaïe jusqu'au 55e. Et puis après l'exil à Babylone, c'est l'écriture d'Isaïe. D'autres disciples d'Isaïe vont écrire le reste du livre, de 56 jusqu'au 66e chapitre. Emmanuel, c'est un nom, mais un nom qui désigne aussi une façon d'être. Chez Matthieu, c'est ça le nom qu'on donne à Jésus, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est son nom. Mais ce nom désigne aussi une façon d'être du Messie. Le Messie est celui qui est avec son peuple. Il est au milieu de son peuple. Comme je disais tout à l'heure, le matin de Noël, malheureusement en français on a traduit ça autrement, le Verbe s'est fait chair. Nous disons « il a habité parmi nous ». Mais la nuance que traduit le texte grec, c'est « il a déployé sa tente » ou « il a planté sa tente parmi nous ». Voilà pourquoi il est Immanuel, avec nos dieux, ou Dieu avec nous, parce qu'il est venu dans ce monde pour rester. Il a planté sa tente parmi nous pour habiter au milieu de son peuple. Alors maintenant, il faut voir en ce qui concerne Isaïe, plutôt Akaz, le roi Akaz, il faut voir le contexte de l'époque. C'est-à-dire, il y a eu quand même la succession au trône. Donc, dans le contexte immédiat, Akaz a eu quand même un successeur. Parce que son souci, c'était qui va lui succéder. Parce qu'il avait sacrifié le prince héritier. Et il aura un héritier qui va lui succéder. Ça, c'est dans le contexte immédiat. Si vous demandez aux Juifs, quand Isaïe dit... Voici la Vierge est enceinte et va enfanter. Mais ils ne vont pas citer Jésus, parce qu'eux n'ont pas accueilli le Nouveau Testament. Ils vont te dire, oui, C'est par rapport à l'héritier d'Akaz qui avait accédé au trône après Akaz. Mais pour nous, la Vierge enfantera, eh bien, il s'agit de la Vierge Marie qui enfantera notre Sauveur Jésus. C'est une prophétie qui va se réaliser plus ou moins 700 ans plus tard.
Bonjour la radio, c'est Crispin depuis la paroisse Saint-Vincent-des-Paul. Père, comment Isaïe prépare-t-il son peuple à la venue du Messie selon ses prophéties? Deuxième question, dans notre vie quotidienne, comment peut-on mettre en pratique les enseignements d'Isaïe?
Comment prépare-t-il son peuple?
Oui.
Bon, il prépare en annonçant d'abord que voilà, le Messie va venir. Le Messie va venir, il a Emmanuel, il sera avec son peuple, il va apporter la paix. Alors, mais pour que le Messie vienne, il faut se convertir. Ça, c'est le message, c'est un aspect important du message d'Isaïe. Isaïe, c'est un juif. Et les juifs pensent que les promesses de Dieu ne se réalisent que si on abandonne les péchés. Si on commet les péchés, les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser. C'est-à-dire, ce que Dieu veut vous donner, il ne vous le donnera pas tant que vous commettez les péchés. Il faut d'abord se convertir, abandonner les péchés pour recevoir ce que vous attendez de Dieu. Et ça, ça aussi, c'est la conviction d'Isaïe. C'est la conviction de tous les prophètes, surtout l'écrivain deutéronomiste hein, nous rappelle cela. Donc il faut se convertir pour entrer dans la terre promise, il faut se convertir pour recevoir les grâces de Dieu. Et donc le Messie ne peut venir que si les gens se convertissent. Et là, notre frère, il y a l'un de nos auditeurs qui posait la question sur Isaïe et Jean-Baptiste. Ils se rejoignent aussi dans la conception du salut. Pour que le Messie vienne, il faut se convertir. Isaïe prêche cela et Jean-Baptiste aussi fera autant. Pour que le Messie puisse venir et puis commencer son travail, les gens doivent se faire baptiser pour obtenir le pardon des péchés, c'est-à-dire pour se convertir. Alors, deuxième question, mettre en pratique, bon, mais c'est la question de volonté. Le message d'Isaïe est tout à fait simple. Il faut espérer. Il faut espérer un monde meilleur. Mais pour que les grâces de Dieu abondent dans votre vie, il faut se convertir. Alors comment? Eh bien bon, ça c'est une question qui dépend de tout un chacun. Mais pour se convertir, comment? C'est en écoutant la parole de Dieu, en allant à la messe, en fréquentant le sacrement de l'Église, on aura la grâce de la conversion.
Nous allons prendre la dernière question. Bonjour Père et bonjour Bob. Ma question, c'est sur l'évangile du dimanche. Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus si c'est lui le Messie. Mais nous sommes dans l'attente du Messie en ces temps de Noël. Comment expliquer les choix de cet évangile pendant ces temps de l'Avent, mon Père? C'est Théophile Moubiko de la paroisse Saint-Pierre Claver à Lubumbashi.
Merci beaucoup à notre frère pour cette question. En fait, le but de cet évangile, c'est de nous montrer la mission du Messie. Le Messie va venir, mais en vue de quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Et la réponse, c'est ce qu'on a eu dans l'évangile du troisième dimanche de l'Avent. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Donc il vient pour cela. Il vient pour le salut de son peuple, du peuple de Dieu. Le salut vraiment intégral, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan humain, sur le plan social, salut intégral. Comme je le disais, le Messie apporte la paix. Et la paix, c'est le bien-être intégral. C'est comme cela que moi j'ai défini ça, parce que la paix, dans le contexte juif, contexte vétérotestamentaire, c'est l'ensemble des biens messianiques. Et l'ensemble des biens messianiques, c'est quoi? C'est ce qu'on voit dans les évangiles. Jésus qui guérit, Jésus qui donne à manger, Jésus et qui annonce la bonne nouvelle de la conversion, de l'espérance, de la consolation, Jésus qui réanime les morts. Donc tout cela, ce sont des biens messianiques, des biens qui portent sur la vie spirituelle de l'homme, mais aussi sur le social. Voilà pourquoi c'est que le Messie apporte comme paix, il faut comprendre cela comme le bien-être intégral de tout homme.
Voilà, merci de rendre cette catéchèse un vrai dialogue à travers vos questions. Nous terminons par là. Les restes Malich, nous allons vous retrouver juste à la partie Lingala, Père Isaïe, prophète de l'espérance, grosso modo.
Et grosso modo, Isaïe, c'est quelqu'un qui, dans une société où il y avait la corruption, il y avait la violence, il y avait la misère de beaucoup, et une minorité vivait dans l'aisance matérielle, mais la majorité était plutôt pauvre. Alors c'est dans ce contexte que le prophète se lève et il annonce l'espérance, c'est-à-dire un monde meilleur, un monde où il fera beau vivre. Mais ce monde ne peut venir que si chacun de nous s'est converti. Il annonce aussi le jugement de Dieu. Dieu va purifier le monde de tout ce qui nous empêche de nous épanouir. Injustice, idolâtrie, antivaleur, le jugement de Dieu va purifier le monde de tout cela. Mais il y aura un reste qui va survivre au jugement de Dieu. Et ce reste-là, qu'on appelle le reste de Sion, c'est pratiquement le nom de son fils, hein, fils aîné, Shear Yashuv, qui signifie il y aura un reste qui va revenir. Alors, le prophète Isaïe prêche aussi l'espérance contre toute espérance. Notamment, le serviteur souffrant. C'est quelqu'un qui souffre énormément, mais qui devient une figure d'espérance. Il souffre, mais il réussira. Ça, c'est très intéressant. Si vous lisez Isaïe 52, de 13 jusqu'au 53e chapitre, 12e verset, « Mon serviteur réussira. » La multitude était consternée en le voyant, car il ne ressemble plus à un homme. Mais il montera, il sera exalté. Ça, c'est l'espérance. Quelqu'un qui est malade et qui est vraiment au bout du rouleau, et on ne lui accorde pas beaucoup de chance, et peau sur os, il a maigri visiblement, mais il faut lire Isaïe 52, de 13 jusqu'au 53e chapitre, 12e verset, où il dit « Mon serviteur réussira, mon serviteur sera exalté. » Quelqu'un qui est en prison, dénaturé, la misère en prison, là vraiment dénaturé. Il est devenu méconnaissable. Ce n'est plus celui que vous connaissiez. Mais même dans ce contexte, si vous avez la foi, eh bien, écoutez cette parole d'Isaïe qui dit « Mon serviteur réussira, il sera exalté. » La multitude ne le reconnaissait plus, il était devenu méconnaissable, mais la multitude restera bouche bée à cause de ce que je ferai pour mon serviteur. Donc ça, c'est l'espérance que Isaïe transmet à son peuple. Merci.
Merci beaucoup. Retrouvez cette catéchèse dans les heures qui suivent sur notre site web, le www.radiomaria.cd. Père Roger, votre prière.
Et merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Seigneur Jésus, ton prophète Isaïe, et qui a abattu un travail merveilleux sur le plan pastoral et spirituel et sur le plan social en son temps, est pour nous une référence. Non seulement en ces temps de l'Avent, mais dans un contexte social où beaucoup sont confrontés à d'énormes difficultés. Nous pensons à ceux qui sont malades dans des hôpitaux, à ceux qui sont dans des prisons, à tous ceux qui souffrent, aux victimes de la guerre, de la violence dans notre pays, dans notre société. Isaïe avait dénoncé la violence, la corruption, les injustices. Hélas, ces antivaleurs existent encore dans notre monde aujourd'hui. Fais de nous, Seigneur, des prophètes Isaïe de nos jours. Que chacun de nous devienne Isaïe pour que nous soyons témoins de l'espérance au sein d'une société où beaucoup ont perdu l'espérance. Vierge Marie intercède pour que cette catéchèse puisse porter les fruits escomptés dans la vie de tes enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.